La chronique de psychologie sociale en compagnie de Roxane de la Sablonnière, PhD, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et directrice du projet Intercom. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, on fait ça par téléphone et je voulais aussi mentionner que la chronique a été préparée en collaboration avec Anne-Sophie Bourdeau, Eliane Mirandette, Mégane Elisabeth Robin, qui sont des étudiante au baccalauréat à l'Université de Montréal. Alors, Roxane, qu'entendez-vous par violence dans les écoles?
Bien, aujourd'hui, je voulais vous parler de la violence dans les écoles parce qu'on en entend vraiment beaucoup parler dans les médias.
Oui.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Journal de Montréal avait rapporté en mars dernier qu'une élève du secondaire avait été rouée de coups par ses camarades de classe au débarcadère de l'autobus. Elle avait fait plusieurs plaintes auprès de la direction, puis elle avait l'impression que rien n'avait été fait jusqu'à cet événement. Il y a aussi, en février dernier, un père qui a agressé physiquement l'un des intimidateurs de son fils. Puis sur la vidéo, on voit le père qui est troublé par la souffrance que son fils vit là, dans le quotidien. Puis il saisit l'intimidateur, puis il menace de l'enterrer vivant. Donc, puis il dit qu'il n'avait pas peur d'aller en prison. Donc, c'est vraiment deux exemples qui illustrent l'importance peut-être même de la prévention puis de trouver des solutions efficaces parce que c'est un phénomène quand même important, là, la violence dans les écoles.
Ça existe, la violence scolaire, donc.
Exactement.
Ça existe. En milieu scolaire, devrais-je dire.
Oui, puis moi, j'ai des enfants à l'école puis j'entends des histoires là, qu'ils me racontent. C'est peut-être anecdotique. Mais il reste que c'est quand même un phénomène qui est important. Fait que on a voulu pousser ça avec les trois étudiantes là, qui ont travaillé avec moi. Et puis on a commencé par se demander mais qu'est-ce que la violence? C'est quoi qu'on entend par ça? Mm-hmm. Donc c'est un comportement qui est non désiré, qui est perçu comme hostile, nuisible, qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits et à sa dignité. Il y a un sondage en 2023 qui a été réalisé par l'Institut de statistique du Québec, l'INSPQ, puis qui démontre que les comportements les plus fréquents sont la moquerie, les insultes, l'exclusion d'activité et aussi, de plus en plus, les rumeurs publiées en ligne. Donc, selon ce même sondage, ce serait 61% des jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui ont subi au moins un comportement d'agression en milieu scolaire au cours des 12 mois précédant le sondage. On distingue aussi dans cette étude l'agression du comportement d'intimidation. L'agression, ça peut être un comportement qui est isolé. L'intimidation, on parle d'un caractère qui est répété. Puis souvent, ça renforce certaines inégalités ou des rapports de force qui peuvent être différents là, entre l'intimidé puis la personne qui intimide. Donc, l'intimidation toucherait 24% des jeunes âgés de 12 et 17 ans au Québec. Donc, si on se rappelle, là, puis aussi, ce même sondage montre qu'il y aurait eu une augmentation des comportements d'agression dans les écoles en 2010-2011. On parle de 36%, alors qu'en 2023, on parle de 61%. C'est quand même un bond important. Puis la violence se fait chez les jeunes, par les jeunes, mais aussi les éducatrices, les techniciennes en service d'éducation spécialisée. Les enseignants rapportent aussi être victimes de gestes à caractère plus violent. Donc, ils en rapportent trois fois plus là, depuis 2018. Puis finalement, il y a le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire de la CSQ, Éric Pronovost, qui parle des écoles comme un milieu sous haute tension, donc où différents acteurs du réseau ne sont pas épargnés là, par la violence. Donc, c'est pas juste une question des jeunes, mais c'est aussi les parents, le personnel. Donc, tout le monde semble impliqué dans cette intimidation ou cette violence ou cette hausse de violence dans les écoles. Puis récemment, évidemment, on ne peut pas passer ou éviter de parler de ce qui s'est passé à l'école primaire Bedford Je ne sais pas si vous vous souvenez, Hélène, on en a beaucoup parlé dans les médias à Côte-des-Neiges. Donc, il y aurait eu 11 enseignants qui ont utilisé des tactiques d'intimidation et d'humiliation envers les élèves et les membres du personnel.
Jamais j'aurais pensé que l'école aurait été associée à un milieu sous haute tension. Roxane, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour lutter contre l'intimidation et qu'est-ce qui est fait ailleurs dans le monde?
Bien, il y a un rapport de l'UNICEF, UNESCO, en 2019, qui portait sur la violence et l'intimidation qui a rassemblé une multitude de données sur 144 pays et territoires pour voir avoir un portrait global de toutes les régions du monde et aussi en fonction des différents statuts socio-économiques de ces pays ou de ces régions. Ils ont mis en lumière des changements au fil du temps concernant la violence, la prévalence de la violence. Et fournissait aussi un aperçu des facteurs de succès qui contribuent à la réduction des comportements violents ou néfastes. Donc, entre 2002 et 2017, environ la moitié des pays étudiés auraient observé une augmentation des comportements violents ou aucun changement significatif. Le Canada figure parmi les pays qui n'auraient pas eu de changement, donc ni augmentation ni diminution. Mais il y a quand même une moitié de pays qui ont vu une diminution notable de la violence dans les écoles. Cette diminution est attribuable à plusieurs stratégies qui ont été mises en œuvre par ces pays.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets?
Oui, j'ai quelques exemples. Premièrement, il y a l'Italie. La violence et l'intimidation y auraient diminué de 12 % grâce à deux programmes scolaires importants. Le premier s'appelle TRAP, qui a été lancé en 2008, puis l'autre Kiva, qui a été introduit en 2013. Donc, le programme No Trap, il se divise en deux phases. Puis c'est juste pour illustrer un exemple concret, mais il y a plusieurs types de programmes là qui existent. Donc, la première phase, c'est dirigé par des experts en psychologie. C'est une formation des enseignants, des parents sur le harcèlement, l'intimidation, la cyberintimidation. Puis ça met vraiment l'accent sur la sensibilisation et la prévention. Et la deuxième phase, ça implique des pairs éducateurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est des élèves qui ont reçu une formation, qui prennent le relais en travaillant à la fois dans les classes et en ligne pour offrir un réseau de soutien aux victimes, sensibiliser puis favoriser l'empathie, la compassion. Donc, c'est vraiment pour outiller les élèves, les rendre très proactifs dans le processus. Mais de ce fait, bien, les parents sont aussi impliqués et tout le personnel de l'école. Et ce programme aurait eu plusieurs effets positifs qui se sont révélés stables dans le temps. Par exemple, une amélioration du bien-être par les participants à ces programmes.
Bon, bien, c'est tant mieux s'il y a des solutions. Mais mis à part les élèves et les parents, est-ce qu'il est nécessaire que d'autres acteurs participent à la mise en place des programmes de lutte contre la violence et l'intimidation?
Oui, puis ça... De soi, il faut vraiment que tout le monde soit engagé envers la problématique. Puis on parle ici des directions, on parle de la politique peut-être à plus haut niveau aussi, des parents, les professionnels scolaires, la communauté. Donc, plus qu'il y a d'acteurs qui sont impliqués, donc ici on parle d'une approche qui est intégrée, c'est-à-dire plusieurs personnes, bien, plus que de chances de succès aussi, parce que ça favorise un environnement où il y a une communication qui est ouverte, qui est bienveillante, puis ça peut contribuer significativement à prévenir les comportements d'intimidation, puis soutenir aussi les élèves qui en sont des victimes.
Est-ce que vous avez des exemples plus concrets, encore des exemples de ce que les enseignants, les parents peuvent faire pour contribuer à la lutte contre la violence et l'intimidation?
Oui, ben, j'ai trouvé un petit exemple d'un pays d'Afrique, en Eswatini. Je le dis peut-être pas correctement.
Eswatini?
C'est ça. Je ne sais pas exactement c'est où, je n'ai pas vérifié, j'en suis désolée. Ça sera pour une prochaine fois un cours de géographie sur l'Afrique.
Bien, vous avez quand même dit que c'est un petit pays d'Afrique australe.
Oui, ça fait ça. Donc, eux ont mis l'accent sur la formation des enseignants pour faire régner la discipline d'une façon positive dans la classe, puis aussi créer une culture de la classe qui est épanouissante, puis qui encourage ou qui incite les enfants à la participation. participation. Le but, c'est que les enfants évoluent dans un environnement scolaire qui est positif puis sécuritaire aussi. Puis, ils mettent beaucoup l'accent sur la responsabilisation. Donc, ça implique évidemment, encore une fois, les parents et tout le personnel là, de l'école. Puis, le but, c'est vraiment de rehausser le sentiment de sécurité. Donc, puis aussi, dans d'autres pays, il y a des mécanismes de soutien puis de référence qui sont importants. Puis ça, c'est-à-dire, ben, d'être capable de se référer à d'autres professionnels si on a été victime et qu'on se sent pas bien ou qu'on a certaines conséquences psychologiques, par exemple. Puis ici, j'ai l'exemple de la Corée du Sud. Eux, ils ont un projet qui est innovant, qui offre la possibilité tant aux victimes qu'aux auteurs de violences d'être traités puis de bénéficier de consultations thérapeutiques.
Alors, Roxane, pour votre information et celle de nos auditeurs, l'Eswatini était enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique.
Ah, merci, c'est donc belle fois.
Fait plaisir, merci à vous. Merci à vous surtout. Et on va se retrouver avec grand plaisir en janvier, le 30 janvier. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes avec votre famille, vos proches, Roxane. Merci encore une fois de votre collaboration très importante pour nous. Roxane de la Sablonnière, je rappelle que vous êtes professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et directrice du projet Intercom.
Merci, joyeuses fêtes.